désordre, eux-mêmes se sont construits leurs propres règles. Par exemple, les cisterciens, le je ne sais pas quoi, et chacun obéit à sa règle propre parce qu'ils ont senti la fragilité.
Voilà. Et ce sont des règles humaines, des règles humaines et donc faillibles. Et certaines règles sont critiquées par d'autres confréries, justement, hein, par d'autres ordres et d'autres, oui, confréries, on peut dire, dans l'ordre, dans les ordres monastiques. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a ces guides, heureusement qu'il y a ces rails, heureusement qu'il y a ces jalons. Alors, le Coran se veut être un guide pour l'homme, non seulement à l'époque du prophète, mais pour tous les temps. Et pour l'homme, quelle que soit sa condition sociale. Hein, il s'adresse à tous les hommes de la terre et il s'adresse depuis le chef qui gouverne jusqu'à l'homme de la rue. Hein, et c'est les mêmes règles pour tous. Et le Coran a servi véritablement d'organisation à la société musulmane, autant à ses débuts, quand ils étaient une poignée de croyants, que ensuite, quand la religion s'est étendue de par le monde, depuis de l'Atlantique au Pacifique, dans un empire gigantesque. Et cette communauté a puisé dans le Coran, a puisé dans le Livre Saint, non seulement sa prière, son jeûne, hein, les petits actes individuels qui alimentent la relation verticale entre l'homme et Dieu, mais non, autre chose, les règles de vie sociale, des règles de commerce, des règles juridiques, hein, en dehors de l'éthique. Cette réforme des mœurs, elle s'illustre bien dans le discours de Ja'far ibn Abi Talib au Négus, vous savez, la première émigration pour soustraire les premiers musulmans à l'oppression mécoise, s'est faite en Éthiopie, en Abyssinie, et un roi généreux donc les a accueillis à bras ouverts. Et voici comment ils lui ont résumé l'islam, comment ils lui ont résumé justement cette réforme des mentalités qu'ils ont sentie. Nous vivions dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles. Nous vivions dans la luxure. Nous mangions la bête trouvée morte. Nous ne respections ni les liens de parenté ni les devoirs de bon voisinage. Le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Dieu suscita parmi nous un homme à la lignée, à l'honnêteté et à la sincérité reconnu par tous. Cet homme appelle à croire en Dieu l'unique, à rejeter l'adoration des idoles. Il nous a ordonné de dire la vérité, de ne pas enfreindre les interdits, de ne pas verser le sang, de nous éloigner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens de l'orphelin. Nous avons eu confiance en lui et accepté sa religion. Et on rappelle souvent, pour montrer l'impact de la révélation coranique sur les mœurs, l'Indonésie. On cite souvent l'Indonésie, pays qui comprend 207 millions d'âmes et qui est devenu musulman non pas par l'épée qui les a convertis, hein, mais par la moralité des musulmans qui les a conquis. Ce sont de simples commerçants qui ont amené l'islam. Mais ces commerçants laissaient admiratifs ceux qui ne connaissaient pas l'islam par leur honnêteté, par leur scrupule dans leur métier de commerçant. Alors aujourd'hui, ça a bien changé. Hein. C'est la preuve que nous avons oublié les règles de base de l'éthique musulmane. Allez au marché, voir ce qui se passe. Un jour, le prophète, as-salam, est passé au marché et a vu du grain. Il a un sac de grain, il a plongé sa main à l'intérieur, il a constaté que c'était humide et il a donc dit au commerçant, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis le grain humide dessus ? C'est-à-dire que tu es en train de tromper les gens. On n'a pas le droit de tromper en islam. Quand une marchandise a un défaut, on se doit de le dire. Cette marchandise a un défaut. Je peux te la faire moins chère, mais je te préviens. Alors aujourd'hui, plus le défaut est masqué et que voilà, on est content quand on a trouvé un pigeon qui n'y a vu que du feu. Ce n'est pas de l'islam. Ce n'est pas de l'islam. Nous sommes bien loin de cette éthique-là sauf illa man rahima rabbi, comme on a l'habitude de dire, sauf ceux à qui Dieu a fait miséricorde et qui tiennent encore à ses règles d'or. J'ai aussi une histoire pour illustrer un petit peu comment quelqu'un peut être amené à se convertir à l'islam uniquement en constatant que cette religion est une religion qui a un impact réel et un impact louable, un impact admirable. C'est Ali, Sayyidina Ali, karamallahu wajhah, c'était pendant son califat. Hein. C'était une période de remous. Vous savez qu'il fut une époque où il y avait deux califats en même temps et on ne savait pas qui reconnaître comme calife. Il y avait Ali et Muawiya. Hein. Muawiya ne voulait pas reconnaître Ali comme calife parce que, bon, on ne va pas raconter toute l'histoire. Et donc, Ali décide d'aller négocier la paix avec Muawiya. Il part avec ses hommes, à cheval, armé de son bouclier, et en chemin, il perd son bouclier. Il sait qu'il l'a perdu en route. Quelque temps après, bon, donc il est revenu de cette expédition, tentative de négociation qui est devenue une bataille, malheureusement. Hein, ça a basculé et c'est devenu la bataille de Siffin. Et un jour, au marché, il reconnaît son bouclier sur l'étal d'un marchand, Zimmi, c'est-à-dire juif ou chrétien. Ahlou Zimma, c'était les protégés des musulmans qui vivaient en terre d'islam, mais tout en gardant leur religion, hein, sous la protection de l'État musulman. Il s'approche et il dit « Ceci est mon bouclier ». Et le Zimmi lui dit « Non, il est à moi ». Et Ali lui dit « Mais je sais que je l'ai perdu tel jour, à tel endroit ». Le Zimmi soutient que c'est à lui. Ensuite, Ali n'est pas d'accord et le Zimmi lui dit « Allons voir le juge ». C'est qui Ali là à ce moment-là? C'est Amir el-Mu'minin, c'est l'émir des croyants. Je veux dire aujourd'hui à le président de la République, je porte plainte contre toi, ou allez, on va voir le juge. Aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas dans un pays de réelle justice. Mais nulle part vous ne vivez dans un pays de réelle justice. Nulle part vous ne pouvez, vous n'osez dire au président, viens, on va voir le juge. Mais là, c'est vraiment la vraie justice qui règne, avec un grand J. Et Ali dit, allons voir le juge. Et ils vont voir donc ce juge très connu qui s'appelle Shuraih al-Hakim. C'est un juge qui a fait ses preuves parce qu'il a exercé du temps du califat d'Umar, de 6 califats successifs. Il est mort à 107 ans, ce juge. Il était connu pour sa grande justice et sa façon il appliquait les règles de la justice à tout point de vue. Donc ils sont maintenant devant Al-Qadi, devant le juge, et Ali dit, je porte plainte contre ce ennemi, contre ce monsieur, mon bouclier, je ne l'ai ni donné, ni vendu, donc il est encore en ma propriété. Le Zimmi lui dit, moi j'ai trouvé un bouclier, il est à moi. Alors, dans la règle de la justice musulmane, voici ce qui se passe. C'est le plaignant, donc Ali ici, qui doit fournir les preuves que ce bouclier lui appartient. Et s'il n'y arrive pas, là, on demande à l'accusé, donc le Zimmi en l'occurrence, de jurer, de prêter serment sur le livre saint, que ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que cet objet lui appartient. Alors Ali dit, oui, je peux prouver que ce bouclier est à moi, j'ai deux témoins, mon serviteur et mon fils Al-Hassan. Al-Qadi, Shuraih, donc Al-Hakim lui dit, je peux accepter ton serviteur comme témoin, mais pas ton fils, parce que c'est un descendant. Dans la règle de la justice musulmane, un descendant ne peut pas témoigner pour un ascendant. Un fils ne peut pas témoigner pour son père. Parce qu'il y a un parti pris. Et Ali lui dit, Al-Hassan, ne te rappelles-tu pas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de mes enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, ces deux-là seront les maîtres des jeunes gens de la jeunesse du paradis? C'est-à-dire, comment peux-tu douter de la sincérité de Al-Hassan? Il ne peut pas faire de faux témoignages. Shuraih al-Hakim dit, je n'ai pas de doute que tu dis la vérité, mais je me dois d'appliquer les règles de mon métier et je ne peux pas accepter ton témoignage. Tu n'as qu'un seul témoin. Et donc il se tourne vers Adhimmi et il lui dit, es-tu prêt à jurer? Adhimmi, il jure. Wallahi, je jure par Dieu.